Clinton, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 11 décembre 2014. Morgan Guiriec et Chérubin Dorcil depuis Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, double attentat à la bombe dans le centre du Nigeria. Bilan au moins 31 morts.
La France neutralise un groupe de djihadistes dans le nord du Mali.
C'est une opération menée la nuit dernière par la force française qui a permis de mettre hors d'état de nuire une dizaine de djihadistes du groupe Al-Mourabitoun.
La Cour pénale internationale annonce sa décision de juger Charles Blé Goudé, un ancien leader de jeunes, pro Gbagbo.
Bientôt, des états généraux de la justice au Burkina Faso.
Au Sénégal, événement religieux majeur avec le coup d'envoi du Magal à Touba.
Afghanistan, un attentat suicide aurait fait plusieurs morts à l'Institut français de Kaboul. Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons au Nigeria où un double attentat à la bombe a fait au moins 31 morts à Jos dans le centre du pays. Les explosions se sont produites près de l'endroit où une attaque du même genre avait tué au moins 118 personnes en mai dernier. C'est ce qu'indiquent les services de secours cités par l'AFP. Le bilan pourrait évoluer, a déclaré Pam Ayuba, porte-parole de Jonah Jang, le gouverneur de l'état du Plateau dont Jos est la capitale.
Au Mali, la force française intensifie ses opérations dans la région de Gao. Elle annonce avoir mis hors d'état de nuire une dizaine de djihadistes d'El-Mourabitoun, dont leur chef Ahmed El-Tilemsi, qui a été tué lors de l'opération. Boubacar Touré.
C'est une opération menée la nuit dernière par la force française qui a permis de mettre hors d'état de nuire une dizaine de djihadistes du groupe Al-Mourabitoun, dont un très proche de Mokhtar Ben Mokhtar. Il s'agit de Ahmed El-Tilemsi. De son vrai nom, Abdelhamen Ould El-Khamar est un arabe malien du Tilemsi. Il est né dans les années 1970 dans le Tilemsi, cercle de Bourem. Avant de rejoindre les islamistes du Moujaou en 2012, lors de la prise de Gao par les groupes armés, il était un narcotrafiquant de grande renommée. Depuis cette date, Ahmed El-Tilemsi est devenu un cadre financier et militaire du mouvement. C'est lui qui coordonne les opérations intérieures. Ahmed El-Tilemsi est très connu des populations de Gao puisqu'il était l'une des personnalités les plus importantes du Moujaou qu'il a intégré pour combattre le MNLA. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
En Algérie, un deuxième membre du groupe islamiste Joun Al-Khalifa a été tué par l'armée. D'après le gouvernement, il s'agit d'un des auteurs présumés de l'assassinat du touriste français Hervé Gourdel, décapité en septembre.
En Côte d'Ivoire, pas de congrès pour le FPI, le parti créé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Les forces de l'ordre ont fait respecter l'interdiction prononcée par la justice, ce qui ouvre désormais la voie à un bras de fer judiciaire entre les deux tendances politiques du principal parti d'opposition ivoirien. Écoutez ce qu'en dit Ferro Bailly, journaliste indépendant, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
Naturellement, un parti est assujetti aux lois de la République. Donc, c'est un bras de fer inutile que le président du comité d'organisation a engagé avec les autorités ivoiriennes. Et donc, naturellement, ce congrès est annulé et le président du comité d'organisation n'avait pas lancé de mots d'ordre contradictoire pour pouvoir croiser le fer avec les autorités ivoiriennes. Cela ne résout pas, au contraire, cela exacerbe les passions au sein du FPI. Les rivalités se sont accrues à qui reste le président statutaire, mais dans quelles conditions va-t-il gouverner au sein du FPI avec cette frange importante des militants qui ne le reconnaissent plus comme militant et qui vont jusqu'à demander même sa démission ou alors même sa radiation du parti. Donc ça, effectivement, le parti se trouve confronté à une situation de crise très profonde qui, si on y prend garde, pourrait donc aboutir à une sorte d'implosion de ce parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'en 2011.
Sachez aussi que la CPI exige le transfèrement de l'ex-première dame Simone Gbagbo. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire a été donc déboutée.
Et par ailleurs, la CPI annonce sa décision de juger Charles Blé Goudé. La Cour a donc confirmé 4 charges de crimes contre l'humanité contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes, mouvement pro-Gbagbo. Un sujet sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine.
Au Burkina Faso, le président intérimaire Michel Kafando a annoncé la tenue prochaine d'états généraux de la justice. Idriss Fall.
C'est à Dédougou, dans le nord-ouest, à la veille des célébrations du 54e anniversaire de l'indépendance, que Michel Kafando a annoncé la tenue des états généraux de la justice. Il n'a pas donné d'autres précisions. Le président Kafando et le premier ministre Isaac Zida ont déjà appelé à de multiples reprises à restaurer la justice, notamment la réouverture des dossiers Sankara et Zongo. Le président Thomas Sankara a été tué dans un coup d'état de 1997 qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Sa tombe n'a jamais été réellement identifiée. Le journaliste Norbert Zongo a été assassiné en 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort d'un chauffeur de François Compaoré, frère cadet de l'ex-chef d'État. Après de nombreuses péripéties, l'affaire Zongo a été classée sans suite par la justice burkinabé.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 6000 morts. Les hôpitaux universitaires de Genève ont dû suspendre pendant une semaine les essais d'un vaccin contre le virus. Il y a eu chez quelques volontaires des phénomènes de douleur dans les articulations des doigts, explique l'OMS.
La détérioration de la situation en Libye menace la stabilité des pays du Sahel. C'est ce qu'affirme l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région devant le Conseil de sécurité.
Législative à l'île Maurice, le premier ministre sortant, Navin Chandrarangoulam, a admis la défaite de son camp face à la coalition de l'ancien président Anirudh Jugnauth.
Des troubles sociaux ont fait 2 morts et 9 blessés hier à Madagascar. La gendarmerie est intervenue dans une sucrerie à Morondava. Des affrontements ont éclaté et une partie de l'usine a été détruite, indique le gouvernement cité par l'AFP. Le personnel réclame des contrats de travail et des augmentations de salaire.
Revenons au Nigeria pour parler de la présidentielle. L'ancien dictateur Muhammadu Buhari affrontera le président sortant Goodluck Jonathan à l'élection de février 2015. Âgé de 71 ans, il a remporté les primaires du Congrès progressiste APC, le principal parti d'opposition.
Par ailleurs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo va être poursuivi pour la publication d'une autobiographie critique envers le pouvoir. C'est ce qu'a fait savoir la haute cour d'Abuja, citée par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle réaction suite à la publication d'un rapport du Sénat américain critiquant les techniques d'interrogatoire musclé de la CIA. L'ancien vice-président Dick Cheney est monté au créneau pour défendre le service d'espionnage et rejeter les accusations de torture. Jacques Aristide nous en dit plus.
Dans un entretien télévisé, l'ancien bras droit de George W. Bush a déclaré que la CIA a fait exactement ce que la Maison-Blanche voulait en établissant un programme d'interrogatoire pour les présumés terroristes après les attentats du 11 septembre 2001. Dick Cheney affirme qu'il n'hésiterait pas à le refaire si les circonstances l'exigeaient. La CIA mérite beaucoup d'éloges et non une condamnation, a dit M. Cheney après ce rapport du Sénat qui assimile les interrogatoires musclés à des actes de torture et soutient qu'il allait au-delà des limites légales sans pour autant fournir des informations cruciales ne pouvant être obtenues par d'autres moyens. Entre-temps, des pays étrangers souvent critiqués par Washington pour leurs abus des droits humains dénoncent maintenant les pratiques de la CIA, la Chine par exemple. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, dit que les États-Unis n'ont aucun droit de se poser en arbitre et pointer du doigt le dossier des droits humains dans d'autres pays, alors que le racisme, le mauvais traitement des prisonniers et d'autres violations graves de droits humains aux États-Unis sont maintenant connus de tous. Même réaction en Russie et au Pakistan, l'Iran, de son côté, accuse les États-Unis de violer le droit international. Le département américain de la justice a fait savoir mercredi que Washington s'engage à honorer ses obligations nationales et internationales, mais s'opposera à la poursuite d'officiels américains en terre étrangère.
C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les funérailles du ministre palestinien tué hier lors d'une confrontation avec l'armée israélienne en Cisjordanie. Des milliers de Palestiniens ont accompagné le président Mahmoud Abbas à Ramallah dans une procession funèbre à la mémoire de Ziyad Abu Ayn. On signale des heurts entre la foule et les soldats israéliens. Attentat suicide à l'Institut français de Kaboul en Afghanistan. Un kamikaze d'environ 16 ans a caché des explosifs dans ses vêtements avant de pénétrer dans l'auditorium où se tenait une représentation théâtrale. Le jeune homme s'est fait exploser en fin d'après-midi, causant plusieurs morts, selon le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Le président François Hollande a condamné l'attentat, y voyant un acte odieux contre la culture et la création.
Et à Hong Kong, la police a arrêté sans violence quelques dizaines de manifestants alors que 2 mois de protestation arrivent à leur terme. En effet, les autorités ont commencé à enlever les dernières barricades et tentes de fortune érigées par les manifestants du mouvement pro-démocratie. Ce mouvement visait à forcer le gouvernement chinois de permettre la tenue d'élections pleinement démocratiques à Hong Kong en 2017.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco aujourd'hui avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Vers une possible sortie de crise au Gabon dans le conflit qui oppose les syndicats du secteur pétrolier au gouvernement.
Une réunion est en cours entre les deux parties alors qu'on constate à Libreville et à Port-Gentil des pénuries de carburant. Comme en 2011 et 2013, l'ONEP dénonce la surabondance des travailleurs étrangers dans le secteur au détriment des Gabonais. Guy Roger Aura Reteno est le secrétaire général de l'ONEP à Port-Gentil.
Côté de l'administration du travail, il n'y a pas un suivi régulier de cette situation, la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours en train de revenir et rappeler l'administration ses obligations de faire respecter les dispositions en matière de flux de main-d'œuvre étrangère.
Important don de l'Arabie Saoudite pour lutter contre le virus Ebola.
35 millions de dollars donnés par le roi Abdullah pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre la maladie à virus Ebola. Le président de la Banque islamique de développement qui exécute ce programme a indiqué que les fonds serviront par exemple à fournir des capteurs thermiques aux écoles, aux aéroports, aux gares ferroviaires et stations de bus. Mise en place également de 3 centres médicaux en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria.
Les ventes de smartphones dans le monde ont dépassé pour la première fois celle de téléphones portables en 2013.
Et oui, selon un rapport de l'OCDE, le haut débit sur les mobiles est désormais largement diffusé dans bon nombre de pays en développement. En Afrique subsaharienne, les abonnements sont ainsi passés de 14 millions en 2010 à 117 millions en 2013.
Voilà pour la Minute Éco de ce jeudi. Merci Nicolas Pinault.
Et nous passons tout de suite à notre page sport, présentée ce soir par Félix Yepassis Zembrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Chérubin.
La Coupe du Monde des clubs a démarré hier au Maroc.
Oui, les Néo-Zélandais d'Auckland City se sont qualifiés pour les quarts de finale du Mondial des clubs en l'emportant au tir au but face au Maghreb Tétouan, au grand désespoir du public marocain. Au prochain tour, samedi, Auckland, qui représente l'Océanie, affrontera l'Est Sétif d'Algérie, lauréat de la dernière Ligue des champions d'Afrique. Au terme d'un match terne, disputé devant plus de 40 000 spectateurs, la déception est immense pour Tétouan, qualifié en tant que champion du pays hôte qui portait sur ses épaules les espoirs de tout un pays.
On connaît aussi les qualifiés pour les huitièmes de la Ligue des champions en Europe.
Eh bien, il s'agit des équipes de Barcelone, de l'Atlético et le Real Madrid en Espagne, l'AS Monaco en France, le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich dans la Bundesliga, Chelsea en Premier League et Porto. Ces équipes ont fini première de leur groupe et auront donc l'avantage de recevoir au match aller. Et les autres qualifiés, chérubins, sont la Juventus de Turin, le FC Bâle, le Bayern, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Chalky 04 et Shakhtar Donetsk.
Enfin, parlons basketball. La NBA, quelques résultats.
Oui, basketball, Boston a été battu par Charlotte 87-96. Les Los Angeles Clippers ont dominé Indiana 103-96, victoire de Washington sur Orlando 91-89. Philadelphia est tombée face à Atlanta 79-95, défaite de Brooklyn face à Chicago 80-105. Minnesota a battu Portland 90-82. Dallas a battu New Orleans 112-107. Enfin, New York Knicks a été plutôt battu par San Antonio 109-95.
Il faut bien parler, Félix, parce que San Antonio, ça, c'est mon équipe. Et bonne nouvelle aussi pour Lionel Gaïma de l'autre côté de la vitre. Son équipe, Washington, a battu Orlando 91-89.
Mais la mienne aussi, chérubin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Diriac en votre compagnie pour cette édition du jeudi 11 décembre. Place au dossier du jour.
Au Mali, l'armée française a annoncé avoir tué cette nuit dans la région de Gao Ahmed El Tilemsi, dirigeant du mouvement islamiste Al-Mourabitoun, qui avait fusionné avec le groupe des signataires par le sang de Mokhtar Belmokhtar. Alors, qui est cette figure djihadiste? Idriss Fall a joint Ali Zaoui, expert en questions sécuritaires et lutte antiterroriste en Algérie.
Ahmed Tilemsi, natif de la wilaya de Hadrar, de la tribu de Ouled Menouk, baron de drogue, banditisme, connu par le service algérien. Il a rejoint le Niger après l'intervention française au nord du Mali et qui est devenu, aux côtés d'Ahmed Dottkeri, une personne influente au sein du Niger.
Après le Mouzao, il avait créé le mouvement Al-Mourabitoun, plus ou moins.
Al-Mourabitoun, aux côtés de Belmokhtar. Ensuite, il y a eu divergence entre eux après le départ de Belmokhtar au Mali. Il est resté dans le nord du Mali. Il a échappé un embuscade commis par les MAA pour sa captivité au mois de juin 2014.
La France annonce l'avoir tué peu après la libération de Serge Lazarevic.
Pour moi, c'est une simple coïncidence. C'est encore rien n'est confirmé, comme elle a toujours dit qu'elle a éliminé telle personne et telle personne et telle personne, comme elle a annoncé il y a longtemps que Ahmad Hamaha il est mort. Il s'avère que Ahmad Hamaha est toujours en vie. Et on voit que la France aujourd'hui ne veut de ne donne que de l'importance à ces opérations. Pour moi, c'est un échec. Et que le terrorisme encore impose sa loi dans les environs de Tombouctou, de Gao et de Kidal.
Même si Serge Lazarevic était le dernier otage français, il y a encore des personnes détenues dans le Sahel là-bas.
Le dernier détenu, c'est Hubert Rodriguez, qui est mort le 22 avril 2014. Là, la question se pose. Nous savons qu'après sa mort, que Mohamed Aghnazem avait remis la dépouille de ce ressortissant français d'origine portugaise, Hubert Rodriguez, et il a été remis à l'autorité française, mais où on est avec cette dépouille ou ce cadavre de Gilbert Rodriguez, que sa famille n'a pas encore reçu ce cadavre.
Est-ce que vous pensez que l'opération militaire française, plus les casques bleus qui sont dans le nord du Mali, ils arrivent à contenir la menace terroriste?
Impossible de contenir la menace terroriste, étant donné que la situation en Libye a une répercussion très dangereuse au nord du Mali. On ne peut pas régler le conflit du Mali sans régler le problème du nord du Mali dans le banditisme et le terrorisme. On trouve leur force à la situation de la Libye avec l'acheminement des gens venus de la Libye dans cette région.
Mais la Libye ne partage pas une frontière commune avec le Mali.
Il n'y a personne qui contrôle les frontières, ni le Mali, ni le Niger, ni la Libye. Nous avons vu que le passage d'armes de la Libye est facilement à rejoindre le nord du Mali et même au Burkina Faso via le Nigeria chez Boko Haram.
Voilà, c'était Ali Zaoui, expert en questions sécuritaires et lutte antiterroriste en Algérie, au micro d'Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale annonce sa décision de juger Charles Blégoudé. La Cour a donc confirmé 4 charges de crimes contre l'humanité contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes, mouvement pro-Bagbo. Maître Claverne Dri, avocat de Charles Blégoudé.
La décision qui vient d'être donc rendue par la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale et qui confirme donc totalement toutes les charges contre M. Charles Blégoudé. Et pour nous, notre sens consacre, à notre point de vue, la vacance du droit. Nous pensons que le droit n'a pas été dit, et c'est le moins que nous puissions aujourd'hui observer comme réaction par rapport à ce que nous venons de recevoir comme décision. Le monde entier a écouté l'accusation, a vu toutes les gesticulations de l'accusation. Nous pensons que la notion des crimes contre l'humanité n'a pas été véritablement invité à ce procès. Nous avons vu une accusation qui a tout dit, sauf démontrer en ce qui concerne les charges reprochées à M. Charles Blégoudé. Nous avons parlé de la RTI, la question de la RTI. Nous avons parlé du bombardement des femmes à Bobo. Nous avons parlé de tous ces faits. Et jamais nous avons pu faire la preuve que M. Charles Blégoudé était impliqué d'une manière ou d'une autre dans ces événements.
Est-ce que vous pensez que cette cour n'ait jamais poursuivi les partisans d'Alassane Ouattara?
Lorsqu'on parle de l'environnement post-électoral en Côte d'Ivoire, vous pouvez donc vous faire déjà une belle idée de ce que cette Cour est. Ce n'est pas aujourd'hui un secret pour quelqu'un par rapport à cette véritable injustice qui est faite. C'est tout purement et simplement un constat et cela est véritablement dommage. Dommage pour cette Cour qui incarnait, comme nous l'avons toujours dit, une espérance en regardant donc le traité de Rome qui l'institue. Aujourd'hui, c'est autre chose qui se fait dans cette Cour et ça, c'est vraiment dommage.
Pourtant, c'est la même Cour qui vient d'abandonner les poursuites contre Uhuru Kenyatta, faute de preuves, non?
Nous avions espéré il y a quelques jours que cette cour-là pouvait aller jusqu'au bout. Mais vous savez, c'est des questions d'intérêt qui cachent des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous pensions que par rapport à tout ce qui a été dit dans cette cour pendant ces 4 jours, nous pensions véritablement que le droit allait être dit. Et donc cette décision, pour nous, à notre point de vue, vient purement et simplement consacrer une vacance du droit.
Maître Clavé-Andry, avocat de Charles Blégoudet, au micro d'Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Sénégal, l'événement religieux majeur avec le coup d'envoi du Magal à Touba, c'est la 120e édition de ce rassemblement de la confrérie Mouride. Comme chaque année, des millions de personnes sont attendues dans la ville sainte, située à 250 km à l'est de Dakar. C'est l'occasion de commémorer le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Nicolas Pinot a joint sur place Cheikh Tahiri Fall, président de la Fédération sénégalaise des écoles coraniques.
C'est un grand événement national, religieux et traditionnel, même on peut dire africain. C'est une occasion offerte par le cheikh Amadou Bamba pour rassembler ses talibés, faire ce qu'on peut appeler magal, c'est-à-dire commémoration ou chanter le louange de Allah. Il a fait échapper des mains des colonialistes, il l'a fait retourner chez lui. Ce n'est qu'un anniversaire d'une victoire de la paix, victoire de la non-violence dans le Sénégal, c'est ça.
On attend plusieurs millions de personnes pour ce Magal 2014. Dans quelles conditions sont-elles accueillies?
Plus de 4 millions Sénégalais et étrangers non-sénégalais se trouvent maintenant, au moment où je vous parle, à Touba. Chacun a son dal. Dal, ça veut dire son résidence, c'est-à-dire qu'il peut avoir une connaissance à Touba. Il va être son hôte. Tout ce que vous avez, il faut les donner, les présenter aux hôtes de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les habitants de Touba participent au Magal, c'est-à-dire aident le khalife pour recevoir les hôtes, les mettre dans de bonnes conditions, les nourrir, les faire tout pour eux. Il y a tout, il y a des matelas dans des résidences, il y a la sécurité, il y a tout à Touba.
Sur le plan sanitaire, est-ce que des précautions sont prises pour ce Magal?
Depuis plus de 2 mois, le gouvernement du Sénégal est là pour prévenir la population sénégalaise, ceux qui sont à Touba et ceux qui viennent à Touba, à prendre des précautions hygiéniques. Se laver les mains, il y a des savons spéciaux médicamentisés. Il faut que tout le monde se lave les mains et éviter trop de contacts et surtout vérifier ceux qui viennent à Touba, ceux qui ne sont pas au Sénégal, dans les frontières, vérifier est-ce qu'ils portent le virus ou non.
Cheikh Tahiri Fall, joint à Touba.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
Au Zimbabwe, c'est demain que le vice-président Emmerson Mnangagwa et le second vice-président Felekezile Mfoko prêteront serment après leur nomination par le président Robert Mugabe.
Mnangagwa est maintenant en position de succéder au chef de l'État zimbabwéen qui aura 91 ans en février. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le président Mugabe a assuré mercredi qu'Emmerson Mnangagwa n'aura qu'un rôle cérémonial, mais beaucoup pensent qu'il l'a choisi pour le préparer à sa succession. Âgé de 68 ans, le premier vice-président est au gouvernement depuis 1980. Il est considéré comme l'un des hommes de confiance du leader zimbabwéen. Dans un entretien au service zimbabwéen de la Voix de l'Amérique, Emmerson Mnangagwa n'a pas caché sa joie. Je suis heureux, mais avec humilité. La tâche est lourde et je dois répondre aux aspirations de notre peuple et aux attentes de mon parti. Emerson Mnangagwa succède à Joyce Mujuru, limogé par le président Mugabe, qui l'a accusé de complot avec l'étranger en vue de le renverser. Les analystes disaient que Mnangagwa et Mujuru dirigeaient des factions rivales au sein de la ZANU-PF. Il n'en est rien, a assuré le vice-président Mnangagwa.
Non,
la camarade Mujuru et moi sommes des collègues et des camarades dans la lutte armée et il n'y a aucune animosité entre elle et moi. Vous pouvez également l'interviewer, elle vous dira la même chose, a dit Emerson Mnangagwa, ajoutant que toutes ces allégations sont une affabulation des médias. Pendant des années, Emerson Mnangagwa a été présenté comme un faucon redouté. Il défend le contraire. Je pense que ceux qui me craignent ne sont pas des personnes honnêtes. Ils ont peur d'avoir affaire à quelqu'un d'honnête. Ceux qui m'aiment savent que ma vie est comme un livre ouvert. Son surnom de crocodile est diversement interprété, mais Mnangagwa en donne une toute autre signification, assurant que cela vient du groupe Crocodile. C'est le premier groupe de camarades rentrés de Chine après une formation à l'Académie militaire de Nankin en 1964, a-t-il expliqué.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Le Bamako Quintet continue à montrer qu'il est possible de faire bouger les lignes à travers un premier album intitulé Bamako Today. Ils étaient en concert au festival Africolor le 23 novembre dernier et c'était très mouvementé. Hein. On les écoute dans Dana. Le Mali reste réputé et admiré pour sa richesse culturelle, en particulier sur le plan musical, grâce aux artistes tels qu'Ibrahima Sarr, qui sont percussionnistes, qui maîtrisent avec aisance les sons du tambour djembé. Ibrahima est l'un des fondateurs de ce groupe. Il a parcouru le monde aux côtés de Oumou Sangaré avant de rencontrer Aymeric Kroll, qui rôdait aux scènes internationales avec son étrange batterie. Sa rencontre avec Ibrahima Sarr donne aujourd'hui naissance au projet Bamako Quintet. Morgane, c'était Bamako Quintet dans Ntana.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Morgane.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
VOA Afrique, c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui qui a été mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance technique d'Aiden Outkou. Thank you, sir. Chez Rubin Dorsil et Morgane Guiriec, à la présentation, écrivez-nous sur Facebook et visitez notre site internet voaafrique.com. À bientôt. I need for my, I need for any second. You are the more clean to the more.